Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Cette semaine, Matière à penser s'intéresse aux apprentissages et troubles du cerveau, tout particulièrement aujourd'hui, ce soir, à la douleur. Et pour en parler, nous sommes en compagnie du professeur Serge Perrault, rhumatologue, en charge du centre de la douleur de l'hôpital Cochin à Paris, et auteur d'un livre que je vous recommande, « La douleur, je m'en sors » aux éditions InPress. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, nous sommes réunis pour 45 minutes pour essayer de voir avec le président de la Société française d'études et de traitement de la douleur que vous êtes, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, responsable donc de ce centre de Cochin, il y en a 250 en France à peu près, de ces centres spécialisés dans la douleur, de l'écoute de la douleur. Et j'aimerais tout d'abord, peut-être pour resituer la difficulté qu'on a à aborder cette question, faut bien le dire, pour de multiples raisons, du côté rédempteur de la douleur qui a été inculqué par les religions, faut bien le dire, aussi bien la Bible que le christianisme, que même le bouddhisme. C'est la négation du désir qui va permettre la fin de la douleur, pas de plaisir et pas de douleur. Mmh. Tout plaisir est une douleur. Et puis d'ailleurs, vous le relatez dans votre livre, on remonte aux épicuriens, aux stoïciens, et on voit que en fait Épicure combattait contre la douleur par le plaisir, mais on pense que c'est que le plaisir, mais en fait c'était pour s'opposer à la douleur, et puis les stoïciens pour tenir le coup, on va dire comme ça. Donc il reste toute une idéologie qui fait que c'est pas bon d'annoncer sa douleur. Et d'autre part, on a des philosophes, par exemple comme Ruven Ogien, qui nous a quittés il y a peu de temps, qui fustige le dolorisme. C'est-à-dire qu'en même temps, vous allez nous dire qu'il faut qu'on écoute les hommes et les femmes douloureuses, et en même temps, il ne faut pas qu'on soit dans le oi-oi-oi, c'est-à-dire constamment la crainte d'avoir mal et de le signifier aux autres. Alors on va inverser le problème médical, et je vais vous demander... Qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on appelle les analgésies congénitales, c'est-à-dire les quelques personnes, il n'y en a pas beaucoup, qui n'ont pas de douleur physique, j'entends.
Alors, effectivement, c'est un peu étonnant de commencer par parler d'abord des patients que je ne verrai jamais, puisque, effectivement, la douleur est au cœur de l'expérience humaine. Il y a très peu de personnes qui se passent de la douleur, et il y a dans le monde quelques familles, ce sont des maladies congénitales, qui n'ont pas dans le système nerveux, que ce soit essentiellement périphérique, donc les éléments pour ressentir de la douleur. Et donc on appelle ça l'analgésie congénitale. Ce sont donc des mutations qui portent sur certains canaux de la sensibilité et qui vont donc entraîner cette insensibilité congénitale à la douleur. On pourrait penser que c'est bien de ne pas ressentir de la douleur. En fait, ces familles-là, eh bien, souvent, c'est des enfants chez qui on va observer des troubles du développement, des troubles de l'adaptation, hein, parce que la douleur aussi, c'est aussi quelque chose qui nous permet de nous adapter, de savoir ce qui est dangereux dans l'environnement, savoir que quand on saute du premier étage et que si on se fracture, eh bien, c'est dangereux. Quand on touche quelque chose qui est brûlant, il faut retirer sa main. Donc, ces enfants ont des troubles du comportement, vont souvent s'infecter, vont avoir des fractures, des brûlures qui vont pas traiter, et parfois des maladies graves jusqu'à aller à mourir. Donc c'est l'expérience de la douleur dans cette non-expérience extrême est souvent délétère.
Mais ce qui m'intéressait dans cet aspect-là, c'est que évidemment en voyant des mutations génétiques qui seraient responsables des troubles des canaux sodium, hein, c'est-à-dire pour être un peu rapide, ce qui permet, puisque l'influx nerveux finalement c'est un potentiel d'action entre le potassium et le sodium, et c'est l'information qui remonte au cerveau. Donc s'il y a une perturbation à ce niveau-là, par une origine génétique totale, ou en tout cas une tendance, alors on va avoir ce phénomène rare, comme vous l'avez dit, qui est la non-douleur. Mais du coup, on peut réfléchir éventuellement sur comment contrecarrer la douleur à un moment donné, peut-être.
Oui, en sachant qu'ici, on va être surtout dans une perturbation des voies périphériques de la douleur, c'est-à-dire ce qui est plutôt de la douleur aiguë. Or, dans les centres de la douleur, on traite surtout la douleur chronique. Et là, plus c'est chronique, plus c'est dans le cerveau, moins c'est en périphérie, moins c'est dans ces récepteurs de la douleur.
J'entends bien et je comprends ce que vous dites. Simplement, là, je voulais pointer sur le fait qu'on a peut-être quelques origines génétiques des troubles.
Ah oui, mais même au niveau du cerveau. On sait que certaines mutations génétiques qui portent sur des enzymes qui vont dégrader les catécholamines vont modifier notre comportement face à la douleur. Il y a une enzyme qui s'appelle la catécholméthyltransférase qui dégrade par exemple la dopamine, les catécholamines. Et quand on a une mutation de cette enzyme, eh ben on a un comportement douloureux chronique plus important que ceux qui n'ont pas la mutation. Donc la génétique est partout, en périphérie, mais aussi dans le cerveau.
Alors, il y a un phénomène qui est, je trouve, très très passionnant, si on peut dire, malgré la difficulté, c'est l'histoire du membre fantôme. C'est-à-dire que, bon, il se trouve qu'il y a une amputation d'une main ou d'une partie, et il y a des douleurs résiduelles qui existent, et d'ailleurs, déjà, Descartes lui-même avait réfléchi à ce problème, et avait dit que, voilà, la douleur de la main qui n'est pas ressentie par la main, mais elle est ressentie par le cerveau. Donc même s'il n'y a plus de main, c'est le cerveau, lui, continue à fonctionner avec le signal ou la mémoire du signal qu'il a eu. Donc tout se passe dans le cerveau.
Alors tout se passe surtout dans le lien entre le cerveau et le corps. Pas que dans le cerveau, mais dans le lien. Et quand ce lien il est perturbé, eh bien on va avoir des illusions. On va avoir le cerveau qui va reconstruire une histoire, qui va reconstruire une illusion. Et j'ai eu, moi, par exemple, un patient qui était diabétique, qui avait été amputé d'une jambe et qui avait des douleurs de cette jambe fantôme. Mais de temps en temps, sur ces douleurs-là, il en ressentait une autre au niveau d'un orteil qu'il n'avait plus, encore plus intense. Et là, ça faisait référence à un accident qu'il avait eu 10 ans avant son amputation, où en tondant son gazon, il avait donc eu une lésion de l'orteil. Donc il avait déjà une première amputation. Donc il avait 2 douleurs fantômes qui se mêlaient dans son cerveau et dans sa mémoire.
Mais alors l'histoire des 2 douleurs, c'est aussi dans l'histoire de tromper le cerveau. Quand on a mal quelque part, on fait mal ailleurs et ça permet d'amoindrir peut-être la douleur la plus importante en créant une douleur un peu moins importante.
Alors ça, c'est un autre phénomène. Hein. C'est ce qu'on appelle les systèmes inhibiteurs descendants. Chaque fois que vous allez avoir une douleur, le cerveau essaye de réprimer sa douleur en envoyant des messages vers le corps, vers la périphérie. Et donc c'est ce qu'on utilisait au Moyen-Âge, par exemple, pour extraire une dent dans les foires. Quand on vous enlevait une dent, on vous donnait un grand coup de marteau sur l'orteil pour créer une surprise et surtout créer ce qu'on appelle l'analgésie induite par la douleur et pouvoir après extraire une dent. Donc ça, c'est un phénomène d'inhibition qui vient du cerveau.
Et c'est assez étonnant parce que c'est aussi toute la technique des MOXA en particulier, c'est-à-dire fait partie du patrimoine culturel, c'est-à-dire de faire des brûlures à un moment donné qui peuvent détourner l'attention de la douleur. Ce qu'on connaît aussi dans les accouchements, c'est-à-dire en mettant de l'eau distillée sous-cutanée dans le dos, on détourne la douleur vers un autre point et on amoindrit, oui. Je dis. Mais on est sur des douleurs aiguës, oui. On n'est pas sur des douleurs...
Sachant qu'on préfère éviter ce type d'anesthésie, il vaut mieux soulager la douleur plutôt que d'en créer une pour réduire la douleur. À l'heure actuelle, on a des moyens quand même plus éthiques pour soulager la douleur.
Bien sûr, vous avez raison. Dans le climat général de prise en compte de cette douleur, on se rend compte, et vous le signalez dans votre livre « La douleur, je m'en sors », comprendre et agir. Serge Perrault, vous dites que ça peut être une double peine. C'est-à-dire, non seulement on a mal, mais en plus, on a du mal à l'exprimer.
On a du mal à l'exprimer, et surtout, on ne comprend pas pourquoi on a cette douleur. Et puis surtout, on ne comprend pas pourquoi on ne reconnaît pas la douleur. La douleur, c'est toujours l'ombre du doute. C'est-à-dire que la douleur, c'est une expérience invisible. Et non seulement vous avez mal, mais en plus, vous devez le prouver. Vous devez le montrer à vos proches, vous devez le montrer aux soignants. Et donc, c'est toujours l'ombre du doute et c'est cette double peine qui fait qu'il faut non seulement endurer la douleur, mais en plus essayer de montrer des signes, mais pas trop, pour pouvoir avoir les soins qui sont nécessaires. Et donc, souvent, les gens, face à une douleur, ressentent de l'injustice parce qu'ils sentent pas qu'ils sont pris au sérieux et leur douleur n'est pas prise en compte suffisamment.
Alors, vous dites aussi une phrase comme celle-ci, c'est dans la tête, mais pas forcément psychologique.
Exactement, donc c'est vraiment le thème de votre émission. La douleur, c'est le cerveau, mais c'est surtout, comme je l'ai dit, les liens entre le cerveau et le corps. Donc le cerveau est un organe fondamental, est un organe qui régule, qui module la douleur, qui l'intensifie ou qui peut la réduire. Et bien sûr, il y a des phénomènes psychologiques qui vont s'y mêler, mais aussi la dépression, l'anxiété, mais aussi d'autres phénomènes. Et donc, quand mes patients me disent « c'est pas psychologique », je dis « bien sûr, c'est pas seulement psychologique, c'est dans le cerveau, mais c'est pas psychologique ».
Alors, et puis vous dites, ce qui est dit d'ailleurs dans d'autres livres qui traitent de la douleur, comme « L'homme douloureux » avec Guy Simonet, Bernard Laurent, David Le Breton, et chacun a un mode de vécu de la douleur, et la difficulté elle est de le faire passer. Alors, on va voir après comment on le diagnostique, les échelles, pas les échelles. Mais peut-être pour planter le décor, qu'est-ce qu'on a comme type de douleur? Les douleurs aiguës, les douleurs chroniques, et puis j'aimerais que vous fassiez la distinction entre douleur aiguë ou chronique et souffrance.
Alors c'est des questions effectivement fondamentales. Alors pour répondre plus généralement, effectivement souvent mes patients me posent la question de la souffrance, de la douleur. Je dirais qu'il y a trois niveaux. Il y a ce qu'on appelle la nociception, ça c'est ce qu'on étudie chez l'animal, c'est les modèles animaux, c'est la lésion somatique.
On pique, voilà.
Et donc voilà, ça fait mal, ça c'est ce qu'on appelle la nociception. Ensuite, l'être humain, il va ressentir une douleur, il va dire « j'ai mal ». J'ai mal, c'est la douleur. Et quand cette expérience, elle déborde notre existence, elle est dans tous les domaines de notre existence, et ben là, c'est « je suis mal ». Donc la douleur, c'est « j'ai mal », la souffrance, c'est « je suis mal ». Et dans cette douleur, on va bien distinguer deux situations qui n'ont absolument rien à voir. Une première situation qui est la douleur aiguë, qui survient en général après une chirurgie, après un traumatisme, après une inflammation, une métastase d'un cancer. Là, il faut véritablement donner des médicaments. Il faut donc évaluer l'intensité. Et là, on va surtout traiter l'intensité. Et puis à côté, on a la douleur chronique qui, elle, n'a rien à voir, qui est vraiment une expérience, une souffrance avec des dimensions multiples. Et ici, les médicaments seront pas l'élément essentiel de la prise en charge, mais on va surtout traiter toutes les dimensions de la douleur, l'impact dans la vie, dans le sommeil, dans l'anxiété, sur les éléments affectifs, émotionnels. Donc là, l'intensité passe au second plan, c'est plutôt la qualité de la douleur qui va être importante.
Dans cette approche de la douleur, il y a des situations un peu particulières, comme celui des nouveau-nés, voire même des prématurés. Ouais. Que l'on pensait qu'il ne souffrait pas, ou on voulait qu'il ne souffre pas pour de multiples raisons. Et puis là, aujourd'hui, on a mis en évidence que c'est pas si simple que cela. Et il y a en particulier des travaux avec des caméras infrarouges qui essayent de montrer que oui, il y a quand même quelque chose qui se passe, y compris chez les grands prématurés. Et comme il y en a un certain nombre, de plus en plus, on va dire, après 26 semaines, on le constate. Les femmes, n'en parlons pas. Enfin, moi, j'en parlerai par rapport à l'accouchement. Lorsqu'on a diffuser la péridurale, qui n'est pas la panacée totale, mais qui est quand même un pas en avant très important. Il a fallu se battre. D'un côté, l'Église catholique qui répétait la phrase biblique « Tu accoucheras dans la douleur », et de l'autre, il y avait, je vous le donne en mille, le Parti communiste qui lui aussi s'opposait à cette technologie parce que il voulait que la femme trouve en elle-même les forces idéologiques de résister à la douleur par la préparation de la douleur que le parti avait ramené de Russie. Donc c'est toujours un combat qui fait que comment est-ce qu'on peut objectiver la douleur, comment vous la mesurez, puisqu'il n'y a pas de, il n'y a pas de prise de sang, il y a peut-être une imagerie qui a été faite. Est-ce qu'on peut faire un diagnostic? Avec quoi vous faites le diagnostic?
Alors effectivement, la douleur c'est une expérience. Et la grande difficulté c'est d'objectiver une expérience. Objectiver une dépression, objectiver une douleur, c'est un peu les mêmes problématiques. Et donc je dirais qu'il faut d'abord croire à la douleur de la personne. Et utiliser des outils en fonction des personnes qu'on a en face de soi. Si on est chez un sujet adulte, ben bien sûr, on aura des questionnaires, on aura la communication. Mais si on est chez un enfant, un nouveau-né, un prématuré, ben on va utiliser plutôt des échelles comportementales. C'est la même chose chez les sujets âgés atteints de démence, des échelles comportementales. Donc indirectement, des signes qui nous font penser qu'on est dans une douleur avec un élément important qui est la mimique faciale. La mimique faciale, quel que soit l'âge, on sait différencier une mimique faciale de douleur d'une mimique faciale, par exemple, de dégoût. C'est pas la même chose. Et même chez un prématuré ou même chez un sujet âgé atteint d'Alzheimer, on sait bien le différencier. Et là, on a des outils, mais encore une fois, c'est une expression qui va s'approcher le plus possible de la douleur. C'est la même chose que l'imagerie cérébrale. Ce ne sera que pour donner des signes indirects de la douleur. Mais c'est pas parce qu'un cerveau s'allume sur une IRM qu'on est dans l'expérience de la douleur. On s'en approche, mais l'expérience de la douleur, elle est unique, elle est personnelle, et on n'en a que des signes indirects.
Quand on demande soit de donner un chiffre, soit une petite réglette, soit en post-opératoire, soit dans d'autres circonstances, vous pouvez pas comparer ce que dit une personne avec sa réglette là qui va être à 8 et puis l'autre qui va être à 4. Ça veut pas forcément dire que l'un n'est plus intense que l'autre en objectivité, parce qu'il n'y a pas d'objectivité.
Clairement, l'idée n'est absolument pas de comparer la douleur d'une personne à l'autre. L'idée, c'est de se comparer à soi-même, de savoir quelle est l'intensité et quelle approche il faut qu'on fasse, est-ce qu'il faut qu'on donne des médicaments, et une fois qu'on a donné des médicaments, est-ce que cette échelle a diminué. Mais c'est surtout pas pour me comparer à la douleur du voisin à qui on a extrait une dent ou qui a eu une chirurgie. C'est une échelle individuelle et personnelle.
Est-ce que dans le diagnostic de la douleur, vous parliez souvent de la physionomie, est-ce que l'intelligence artificielle va permettre d'avoir des données objectives si c'était nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire d'ailleurs, on pourrait dire?
Je crois que cette quête de données objectives, elle est un peu illusoire. On va avoir de plus en plus d'outils. Il y a des outils de douleur aiguë, c'est par exemple mesurer le rythme cardiaque, mesurer la pupillométrie, donc ça les anesthésistes l'utilisent. On a plein de situations. L'idée, c'est d'utiliser pour une bonne situation le bon outil. La douleur chronique, c'est différent de la douleur aiguë. La douleur post-opératoire, c'est différent de la douleur d'une métastase du cancer. Donc chaque situation doit avoir le meilleur outil pour la situation. Et là, l'intelligence artificielle peut nous donner des outils. Par exemple, mesurer la fonction, mesurer l'activité physique, qui est un témoin indirect, par exemple, de la douleur d'une arthrose.
Ou bien je pensais aussi à des personnes âgées ou Alzheimer qui n'ont pas justement la communication facile, mais sur lesquelles on peut peut-être avoir des éléments plus objectif en tous les cas. Alors, on évoquait la douleur et la souffrance qu'on relie un petit peu au contexte culturel passé, tout ça, avec, bien sûr, on connaît ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen ou le syndrome mexicain pour les Américains, c'est-à-dire des populations qui expriment les choses différemment. Je raconte souvent cette histoire qu'au Vietnam, par exemple, en Asie, vous rentrez dans une salle d'accouchement où il y a 40 femmes qui sont en travail, il n'y a pas un bruit. Voilà, une façon culturelle aussi de le faire. Mais pour distinguer, je dirais, l'expression de la douleur de la souffrance, évidemment, on ne peut pas ne pas se rappeler le poème des Fleurs du Mal. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va cueillir des remords dans la fête stérile. Ma douleur, donne-moi la main et viens par ici. Mais là, en fait, Baudelaire parle d'une douleur de l'âme. Il parle plus d'une souffrance qu'une douleur physique.
Oui, mais on peut penser aussi que qu'effectivement c'est une douleur de l'âme, mais il y a des douleurs physiques où on en est assez proche. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que chacun a sa stratégie. Il y a des stratégies où on va utiliser un poème, où on va utiliser de la distraction, où on va penser à des choses agréables, où on va faire une activité physique. Chacun sa stratégie. Ici, sois sage, ô ma douleur. Donc, on appelle sa douleur, on lui parle. Nietzsche parlait de sa douleur. Il lui a même donné un nom, comme un chien. Il parlait de sa douleur comme un chien, comme un animal proche. Et donc, chacun a sa stratégie. Et nous, médecins de la douleur, notre pratique, c'est aller avec le patient, trouver sa bonne stratégie, l'aider à trouver la stratégie qui va lui permettre de sortir de sa douleur.
Voilà, et maintenant on va écouter une très belle musique, je veux dire, que vous avez choisie dans ce thème de la douleur, le chant de Col Nidre.
France Culture, Matière à penser, René Friedman.
Voilà, vous êtes sur France Culture en compagnie du professeur Serge Perrault, rhumatologue en charge du centre de la douleur de l'hôpital Cochin à Paris, auteur de La douleur, je m'en sors, et qui a choisi ce titre qui prend au trip, bien sûr, puisque c'est chant juif pour violoncelle et piano. Ici, nous entendons que le violoncelle de Sonia Vider-Atherton. Et ce titre, c'est Kol Nidre, c'est le chant traditionnel, le jour du grand pardon. Pourquoi vous avez choisi? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait terminer les douleurs?
Alors, c'est plutôt l'entrée du pardon. Le chant de Kol Nidre, c'est un chant qui est donc à la veille de Kippour, et donc qui Kol Nidre, donc c'est tous les vœux qu'on a fait pendant l'année. Et les vœux, parfois, nous obligent. Et puis, on a des vœux qui sont parfois pas forcément des vœux très positifs, qui sont dirigés, parfois des vœux plutôt négatifs, dirigés contre des ennemis ou des gens qu'on n'apprécie pas. Et donc, cette prière nous délivre de nos vœux, bons ou mauvais, et nous permet le lendemain de repartir, je dirais, comme une page blanche. Et parce que la douleur, c'est la parole. La douleur, savoir parler de sa douleur, savoir s'en sortir, comme je le dis dans mon livre, c'est savoir en parler, savoir être écouté. Et je pense que cette prière de Kol Nidre, donc, est pour moi un élément de départ important de sortir de tout ce qui nous oblige pour repartir avec les soignants vers quelque chose de positif. Et puis j'ai choisi aussi ce chant juif, aussi en hommage à mon grand-père, qui était donc médecin ORL à Budapest, et donc qui m'a donné l'envie de soigner et de m'occuper de la douleur des autres.
Alors, c'est une envie qui est difficile, je trouve, parce que, comme vous le dites, c'est pas objectif, c'est subjectif, il faut être très proche des patients, mais c'est pas facile au cours d'une journée d'accompagner des parcours qui sont pas si visibles que ça et qui demandent de la part du soignant que vous êtes et de votre équipe une proximité quand même rare. Donc c'est pas la médecine la plus facile, je trouve.
Non,
bien
mais
on va venir sur les thérapeutiques, bien sûr. On n'est pas complètement dépourvu, mais quand même c'est une écoute très importante.
Oui, mais c'est aussi une médecine joyeuse. C'est-à-dire qu'avec nos patients, il faut qu'on invente, il faut qu'on imagine, et donc avec le patient, on va essayer de créer comme ça une alliance, on va essayer de comprendre lui où il en est, et on va surtout imaginer. Et je dirais que pour chaque patient, chacun de mes patients, j'essaye d'imaginer des choses, j'essaye aussi de m'amuser avec eux, et puis c'est un peu comme ça qu'on va construire quelque chose pour faire en sorte qu'ils s'en sortent.
Alors, qu'ils s'en sortent de plusieurs situations, on ne va pas toutes les énumérer bien sûr, mais disons les principales, c'est-à-dire le mal de dos, les migraines, les arthroses, les glossodinies, alors qu'ils sont une espèce de la bouche qui est brûlante, et qui peut,
les langues de feu, on dit.
Voilà, ouais. Des douleurs comme ça, qui sont peu rationnelles, On se dit pourquoi c'est tombé là. Ou bien, ce qu'on appelle aussi d'un nom un peu bizarre, les algodystrophies, donc une douleur continue dans une zone particulière du corps. Donc, nous voilà, alors évidemment, post-opératoire, on connaît, on sait bien qu'on a mal à une cicatrice après avoir été opéré ou après avoir été opéré tout court. Qu'est-ce que vous voyez le plus fréquemment dans votre centre de la douleur à Cochin?
Alors moi, au départ, je suis rhumatologue, donc forcément, je suis dans un environnement de pathologie osteo-articulaire, donc je vois des rhumatismes inflammatoires, je vois des gens qui ont été opérés, du rachis, des prothèses de genoux, de hanches, donc c'est 60% de ma consultation, mais à Cochin, il y a aussi un grand centre qui s'intéresse à l'endométriose, il y a aussi du diabète, il y a aussi de l'urologie, il y a du cancer, donc véritablement tout type de douleur, parce que finalement, pour chaque douleur, on va avoir quand même toujours un petit peu la même approche, essayer d'analyser. Les centres de la douleur en France s'appellent centres d'évaluation et de traitement de la douleur. Ça veut dire que l'évaluation est au cœur de notre pratique. Ça prend parfois du temps et parfois j'ai des patients un peu déconcertés qui me disent après une première consultation « Mais docteur, vous ne me donnez rien ». Je dis « Non, j'ai besoin de comprendre un peu plus et j'ai besoin aussi, vous, que vous compreniez un peu plus ». Donc parfois, les trois premières consultations ne sont que des consultations d'évaluation où moi je vais essayer de comprendre et le patient aussi va essayer de comprendre la perspective dans laquelle on veut l'amener. Et ce n'est qu'après 3-4 consultations qu'on va éventuellement proposer un médicament ou une approche particulière. Mais l'évaluation, c'est déjà le traitement. Évaluer, c'est déjà soigner. Et ça, c'est un élément très important dans toutes les douleurs.
C'est vrai que pour moi, il y a quand même deux types de douleurs. Il y a celle qui s'explique. Je reprends le post-opératoire ou bien l'arthrose qui est éprouvée. On a tout un tas de situations. Oui. Et puis, il y a celles qui sont vraiment... On se demande ce qui se passe, quoi. Parce qu'on n'a pas de substrat, on n'a pas de diagnostic précis, mais on a une souffrance... Je pense pense en particulier à l'algodystrophie que j'ai déjà nommée, mais aussi à des névralgies du trijumeau, par exemple du nerf de la face qui bloque comme ça. Ça tombe dessus et on peut comprendre qu'il y avait une croyance à ce que c'était une punition à un moment donné, le fait de souffrir quelque chose, parce que tout ce qui est incompréhensible, c'est magique.
Alors, c'est vrai que la douleur, parfois, on la comprend pas du tout. Et quand, à une époque où la médecine n'était pas aussi avancée, où on avait encore des grandes incertitudes, donner un aspect rédempteur à la douleur, c'était lui donner du sens. Et quand on a enlevé l'aspect rédempteur de la douleur, maintenant, ça sert à rien, la douleur n'est plus une fatalité. C'est Bernard Kouchner qui a introduit ça dans les hôpitaux en 2002, et ça, c'était une très bonne chose. Mais après ça, finalement, il y a des gens qui continuent à avoir mal, et on leur disait la douleur n'est plus une fatalité, la douleur n'avait plus de sens. Et ça aussi, peut-être, un peu désarçonner certaines personnes. C'est-à-dire que ça sert plus à rien de souffrir, mais pourquoi je continue à souffrir? Et à ce moment-là, si ça sert plus à rien, pourquoi ça m'arrive? C'est injuste. Et donc là, l'injustice et, l'incompréhension, elle est plus venue du côté des patients, mais elle est venue du côté des soignants. On a dit, pourquoi il y a encore des gens qui souffrent? Et donc là, il faut expliquer, maintenant, la balle est dans notre camp. Elle est plus, du côté des patients qui étaient, qui avaient besoin de cette rédemption. Elle est du côté des soignants. Et il faut qu'on explique maintenant à nos patients pourquoi ils souffrent, quelle que soit la situation. Et dans ces situations, on comprend pas trop. Je dirais, il faut expliquer que la douleur, c'est vraiment le lien entre le cerveau et le corps. Alors, quelle que soit la douleur, on comprend pas tout. Même une arthrose où il y a un genou très abîmé, pourquoi certains ont très mal et d'autres pas beaucoup? Eh bien, ça, c'est un grand préjugé. Il n'y a aucun parallélisme entre la lésion et l'intensité de la douleur. Vous pouvez avoir une hanche très abîmée, pas de douleur. Une hanche un tout petit peu abîmée, beaucoup de douleur. Ça, c'est la même chose pour l'endométriose chez les femmes. Vous pouvez avoir une endométriose diffuse et essentiellement des problèmes d'infertilité et pas de douleur. Donc ça, c'est pour toutes les douleurs. Et donc là, j'explique souvent à mes patients que la douleur, c'est une sorte de désynchronisation entre le corps et le cerveau. Hein, entre le corps et le cerveau, il y a quelque chose qui est désynchronisé. Et c'est ça pour avancer aussi, comment je vais prendre en charge mes patients. Je vais resynchroniser le corps et le cerveau. Je vais resynchroniser le cerveau vers le corps. Ça va être toutes les approches, méditation, hypnose, relaxation, tout ce qui est psychocorporel. Et puis je vais resynchroniser le corps vers le cerveau. Donc là, ça va être l'activité physique, la rééducation, la physiothérapie, les médicaments, toutes ces approches. Il faut donc aller dans les deux sens. Et avec mon patient, je vais donc remplir un petit peu cette prise en charge avec ce qui leur est adapté. Mais je leur explique que ma prise en charge, c'est de la resynchronisation corps-cerveau.
Donc là, avec vous, professeur Serge Perron, on voit bien le spectre qui est large, puisque nous avons d'un côté des médications, d'un côté peut-être d'autres attitudes dont on parlera, qui sont les neurostimulations, qui se développent. Donc il y a des recherches, qui se font, et puis il y a cette approche non médicamenteuse que vous venez de citer rapidement, et sur lequel il est important quand même d'intervenir, parce que par exemple, l'exercice physique pour des douloureuses, ça tombe pas sous le sens, on dit au contraire, bouge le moins possible, sinon c'est ça qui fait mal. Alors vous développez l'inverse.
Exactement. Donc là, c'est combattre les préjugés, et puis aider les patients à avoir les bonnes stratégies. Leur dire que c'est pas parce qu'on va utiliser une articulation qu'elle va s'user, qu'elle va s'abîmer. C'est pas parce qu'on va utiliser un médicament qui stoppe la douleur que les patients ne vont plus ressentir la douleur qui les protégerait. Hein, il y a aussi l'idée de la douleur utile. Si j'ai mal, je vais savoir que mon genou est abîmé. Si j'ai plus mal, je le saurai pas. Donc ça, il faut savoir que la douleur, elle est inutile, elle nous protège pas. Et que les articulations, par exemple, ou le dos, plus on les fait bouger, plus on va s'améliorer. Mais c'est là que les médicaments peuvent être utiles pour aider à la rééducation. On va prendre un médicament avant d'aller faire du sport, avant d'aller voir le kiné, avant de se rééduquer. C'est ce qu'on fait maintenant en post-opératoire. Avant, on laissait les gens en lit, on leur demandait de pas bouger pendant 15 jours, et là, on voyait que les douleurs chroniques arrivaient. Maintenant, on met les gens debout dès le lendemain ou même le jour même, on les rééduque, on les remobilise, on leur donne des antalgiques pour qu'ils bougent, et là, on voit que la douleur est beaucoup moins importante.
Quand vous avez commencé, Serge Perron, à aborder ce chapitre avec les alternatives aux médicaments, j'aimerais qu'entre l'hypnose, la thérapie nutritionnelle, l'acupuncture et l'ostéopathie, vous nous donniez votre sentiment.
Alors ça va être bien sûr fonction des pathologies. Hein. L'hypnose, c'est vraiment agir sur, je dirais, l'image de la douleur, la perception de la douleur, c'est modifier les perceptions. Hein. C'est modifier les perceptions, c'est changer les sensations, remplacer donc des émotions par des sensations. J'ai une douleur, ça me rend triste, ça me préoccupe, je vais mettre une sensation, une image, un son, une odeur par le phénomène d'hypnose à la place de l'émotion. Hein, voilà, donc c'est un peu, je résume hein, bien sûr, mais bien sûr. C'est changer cette émotion par une sensation. L'acupuncture, c'est autre chose. L'acupuncture, là, ça va être plus utiliser des phénomènes locaux, périphériques, on va activer des petits nerfs qui vont être plutôt dans ce que vous signalez tout à l'heure, ou la moxa par exemple, c'est faire des contre-stimulations, c'est les bases de la physiothérapie, de la contre-stimulation. L'ostéopathie, ça va être plutôt basé sur des phénomènes de traction, d'étirement, posture. De posture. Et là, on est dans d'autres choses, c'est plus les douleurs posturales, musculaires. Donc là, ça va s'appliquer à ce type de douleur. Donc toutes ces approches non médicamenteuses sont intéressantes, mais il faut qu'elles soient utilisées à bon escient. On ne fera pas une manipulation vertébrale à quelqu'un qui a une métastase d'un cancer de la prostate.
Et la thérapie nutritionnelle, qui un régime pauvre en polyamine, qui est proposé par un de vos collègues de Bordeaux.
Alors ça, c'est très à la mode, la nutrition. C'est l'idée que grâce à la nutrition, on pourrait agir sur ces douleurs. On est là dans des éléments assez théoriques qui, pour l'instant, n'ont jamais été prouvés. C'est très difficile d'avoir ce régime-là, qui serait un régime qui diminuerait la sensibilisation au niveau du cerveau et tous ces acides aminés excitateurs au niveau de la moelle. Théoriquement, c'est intéressant. En pratique, un tel régime est assez déséquilibré et ne peut pas être facilement mis en place.
Bon, alors, on vient quand même à la base, je dirais, du traitement de la douleur, puisque si on comprend pas tout, je dirais, on a quelques moyens d'intervenir. Il y en a un qui est quand même, qui date de longtemps. C'est tout ce qui est autour de l'opium et ses dérivés, enfin, oui. J'ai envie de dire, et surtout de la morphine.
Oui.
Et les dérivés actuels. Donc, j'aimerais, quelques idées qui courent et qui sont fausses. Est-ce qu'on a un risque de prendre de la morphine? Parce qu'on a retiré un certain nombre de médicaments aussi du commerce il y a peu de temps, Diantalvic, codéine, des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est dangereux d'avoir des opiacés qui sont pourtant très efficaces?
Donc ici encore beaucoup de préjugés, comme toujours dans la douleur. Alors premier préjugé, c'est les risques liés à la morphine. Donc la morphine, il faut savoir que c'est un médicament. Et donc régulièrement, les autorités sanitaires découvrent que les médicaments, c'est dangereux. Moi, je dirais qu'au lieu de supprimer un médicament, il vaudrait mieux augmenter la formation des soignants, améliorer cette formation et améliorer le bon usage. Comme tout médicament, c'est dangereux, il faut l'utiliser à bon escient, à bonne dose et avec une bonne surveillance. Hein, la morphine, c'est probablement un des médicaments les plus compliqués à prescrire, puisqu'il n'y a pas de dose maximale, il y a des formes immédiates, des formes à libération prolongée, des interdoses, donc c'est assez compliqué. Pour résumer, je dirais que la morphine, c'est le bon traitement de la douleur aiguë, de la douleur post-opératoire. C'est un très mauvais traitement dans la douleur chronique. Aux États-Unis, on a des milliers de morts liées à la morphine. Pourquoi? Parce qu'on a donné ça dans la lombalgie chronique. Et dans la lombalgie chronique, c'est dangereux. Ça induit des addictions, du mésusage, des surdosages. C'est pas la bonne indication. La morphine, c'est un bon traitement dans les douleurs du cancer, dans la douleur post-opératoire. C'est pas un bon traitement de la douleur chronique.
Est-ce que vous avez aujourd'hui une discussion qui se fait jour sur l'emploi du cannabis dans les douleurs, cannabis thérapeutique?
Oui, tout à fait. Je fais même partie donc du comité technique de l'Agence du médicament qui discute en ce moment de la mise à disposition du cannabis. Donc on a donné notre avis favorable à l'utilisation du cannabis à visée thérapeutique, notamment dans la douleur. Globalement, ce que je dirais, c'est que le cannabis, c'est quand même pas un très grand traitement de la douleur. C'est pas ça qui va résoudre les situations de douleur les plus complexes. Ça peut aider dans certaines douleurs neuropathiques, donc on a des nerfs qui sont abîmés. Ça peut aider, ça peut surtout réduire l'anxiété, les troubles du sommeil qui sont associés à la douleur. Mais je dirais que quand on va avoir la mise à disposition de ce cannabis à visée thérapeutique, probablement à la fin 2019, il faut pas attendre de ce médicament, je dirais, une amélioration spectaculaire dans le domaine de la douleur.
Comme c'est chargé idéologiquement, exactement, bien sûr. Est-ce que c'est, il y a une limitation de qui va faire la délivrance, sous quelle forme ça va se faire? En particulier, je crois savoir qu'il n'est pas question de fumer du cannabis.
Exactement.
Mais il est question d'autres modes d'administration, et ensuite, ça soit limité la prescription, en tout cas l'utilisation, justement dans les centres d'évaluation et de traitement de la douleur.
Voilà. Pour l'instant, il y a une grande discussion. Ça n'est pas encore fixé, mais le comité technique doit rendre sa réponse pour le mois de juin. Globalement, il y aura des indications précises, la sclérose en plaques, certaines épilepsies réfractaires, des douleurs chroniques, des soins palliatifs, et associé à ça, bien sûr, les spécialistes, donc des neurologues, des médecins de la douleur, des épileptologues, des palliatologues, toutes ces spécialités qui vont avoir à prendre en charge ces douleurs ou ces situations complexes. Non seulement pour prescrire, mais surtout pour suivre les patients et éviter un mésusage de ces substances.
Est-ce que vous voyez dans le futur des développements de nouvelles substances? En particulier, j'avais cru entendre que Bernard Roch, qui est un pharmacologue connu, je dirais, a travaillé sur un inhibiteur
d'anticéphalinase.
Est-ce que c'est en cours? Est-ce que ça se développe?
Oui, alors il y a beaucoup de nouvelles approches
qui se développent.
Donc là, ici, l'approche que vous citez, c'est un inhibiteur d'une enzyme qui va dégrader les encéphalines, donc nos hormones, nos propres antidouleurs qu'on a dans le cerveau. Et si on bloque l'enzyme qui les dégrade, on va pouvoir avoir nos antidouleurs personnelles. Donc chez l'animal, ça marche bien. Il y a des études chez l'homme qui semblent intéressantes. C'est un produit donc en développement, sûrement intéressant. On a d'autres approches qui n'ont rien à voir, c'est des anticorps monoclonaux. La médecine, à l'heure actuelle, développe des anticorps monoclonaux en cancérologie, en rhumatologie, dans les polyarthrites. Maintenant, on a des anti-TNF, par exemple. Eh bien, dans la douleur, on va avoir normalement, on devrait avoir en 2020 ou 2021, ce qu'on appelle des anti-NGF, c'est le neuronal growth factor. C'est un facteur donc de croissance fœtale chez le fœtus, mais chez l'adulte, c'est donc quelque chose qui régule les médiateurs de la douleur, et donc bloquer ce NGF donc semble être une approche très intéressante pour la lombalgie, pour l'arthrose, pour les douleurs du cancer, les douleurs neuropathiques. Une injection sous-cutanée toutes les 8 semaines réduit de façon assez spectaculaire toutes ces douleurs.
Et alors, dans cette panoplie de ce que l'on peut offrir et adapter au cas par cas, puisqu'on a bien compris avec votre intervention que c'est très personnalisé sur l'histoire, sur le type de douleur, sur le vécu de la douleur, il y a encore, par exemple, des nouvelles choses qui sont des neurostimulations transcutanées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? On va envoyer donc des vibrations pour essayer de calmer les circuits.
Donc la douleur, c'est effectivement, on peut la réduire à un circuit électrique ou en tout cas un dysfonctionnement. Et un certain nombre de douleurs sont liées à ces dysfonctionnements du circuit électrique de la douleur, soit en périphérie, et là on utilise ce qu'on appelle la neurostimulation transcutanée, donc c'est des petites électrodes qu'on va donc appliquer sur la peau dans la zone douloureuse, et par exemple dans les douleurs du zona. Le zona, c'est donc un nerf qui est abîmé par le virus, qui va donc être abîmé par le virus du zona, qui va donc donner ces décharges électriques en permanence. Si vous appliquez des électrodes de neurostimulation avec un petit boîtier que vous mettez à la ceinture, vous pouvez réduire de façon importante ces douleurs du zona. Mais après, il y a des neurostimulations beaucoup plus profondes qui vont être là des techniques neurochirurgicales ou anesthésiques où on va contre-stimuler là des voies de la douleur au niveau de la moelle, au niveau des cordons de la moelle. Et donc là, c'est des techniques de neurochirurgie, de neurostimulateurs avec un petit pacemaker qui va envoyer donc des stimulations au niveau de la moelle épinière et donc contre-stimuler la douleur. Donc on a tout un ensemble de techniques pour contre-stimuler les voies de la douleur. Et puis maintenant, on a encore plus au niveau du cerveau, ça s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne. Là, on vous applique au-dessus du crâne une bobine magnétique qui va activer des zones inhibitrices du cerveau. Donc ça va contre-stimuler dans le cerveau les zones de la douleur, pour résumer. Et donc c'est des techniques très intéressantes, non traumatiques, par opposition à la neurostimulation médulaire. Là, c'est non traumatique. C'est une sorte de casque que les gens viennent mettre tous les jours, et on est en train d'expérimenter tout ça pour des douleurs, notamment chroniques, comme la fibromyalgie, comme l'algodystrophie, comme les douleurs de la syringomyélie. Toutes ces douleurs assez compliquées à traiter, et qui vont être améliorées par cette neurostimulation magnétique transcranienne.
Et quand vous dites tous les jours, ça veut dire que c'est combien de temps ?
Alors, pour l'instant, on est sur des protocoles tous les jours pendant un mois, puis après, c'est toutes les semaines, et puis après, c'est le traitement d'entretien tous les mois.
Donc on voit avec vous, Serge Perrault, qu'il y a plein d'avenir dans le traitement de la douleur. Là. On est confronté à une compréhension, une philosophie presque, je veux dire, une personnalisation, et puis un arsenal thérapeutique avec peut-être des nouvelles molécules, une compréhension de fragilité génétique, et puis des interventions chirurgicales, parfois, en tous les cas, en s'appuyant sur tout ce qui peut être une stimulation différente de ce circuit mystérieux, il faut bien le dire quand même, au terme de cette heure passée ensemble, nous sommes toujours dans des points d'interrogation, mais c'est ce qui fait le moteur de votre engagement, je suppose.
Exactement, et puis surtout sensibiliser d'une part les soignants à mieux comprendre la douleur de leurs patients, et puis surtout le grand public, savoir qui peut s'en sortir, qu'il y a des stratégies qu'on peut développer soi-même avec l'aide des soignants pour se sortir de l'expérience de la douleur.
Mais il y a quand même un point qui semble dans toutes les témoignages, c'est le retard au diagnostic.
Oui.
Alors pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas assez de centres antidouleurs ? Est-ce que on comprend pas qu'il faut essayer de voir un spécialiste rapidement ?
La médecine ne s'intéresse à la douleur que depuis 10 ans. En France, ça ne fait que depuis 10 ans que dans les 6 années d'études de médecine, on a 20 heures dédiées à la douleur et aux soins palliatifs. Donc ça fait que 10 ans que les médecins sont formés à une médecine de la douleur. Quand j'étais jeune et que j'ai dit à un de mes patrons de rhumato que j'allais faire médecin de la douleur, il m'a dit « médecin de la douleur, mais pourquoi pas médecin de la température ?» Donc pour vous dire dans quelle vision il avait de la douleur et de l'expérience de la douleur chez ses patients.
Voilà, merci pour ce message, en tous les cas, que je conseille à tous nos auditeurs. La douleur, je m'en sors, comprendre et agir, de Serge Perrault aux éditions In Press. Vous êtes sur France Culture, vous venez d'écouter donc Matière à penser, dans le cadre de notre série sur cerveau, apprentissage et troubles. Et en remerciant Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Dany Journeau, Joséphine Lampréa et Éric Boisset de nous avoir permis cette belle émission.